Ô Dieu, tu es notre Père et nous te bénissons parce que nous savons que nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père dans les cieux, un Père qui est éternel, un Père vers lequel nous allons chaque jour, un Père dont nous connaîtrons bientôt la divine étreinte dans cette réalité céleste après laquelle nos cœurs vraiment soupirent dans ce monde de désordre et de péché, ce monde que tu avais pourtant créé si beau pour être ce théâtre merveilleux où tu voulais que l'homme, ta créature, joue le rôle que tu lui avais préparé. Et nous savons comment l'étranger est venu pour détourner Ève et Adam de ton plan merveilleux. Et nous savons comment, au lieu de jouer la pièce merveilleuse que tu avais conçue pour l'homme, l'homme et sa descendance se sont mis à être les acteurs de la pièce du mal. Et c'est le sang qui coule, ce sont les larmes, ce sont les cris, ce sont les peines, c'est la corruption, c'est l'injustice sur la terre et toutes les races en sont atteints. Ô Dieu, comme ton cœur a dû souffrir. Et tu pouvais en finir en un instant, mais tu as voulu réaliser, envers et contre tout, ton dessein. Et tu as racheté ta créature en te donnant toi-même pour elle, en ton Fils bien-aimé. Cette merveilleuse histoire du Christ, notre Rédempteur, le Rédempteur de tous les hommes, du monde entier. Oh, que ton Évangile se répande partout sur toute la terre et qu'enfin, dans l'unité, dans la charité, ce monde retrouve toute sa beauté, son harmonie. Nous savons que ce jour vient. Et en attendant, nous voudrions te demander que nous soyons déjà des témoins de cette vie que connaîtra le monde entier, quand la connaissance du Seigneur remplira la terre, couvrira la terre comme le fond des mers, comme le sable le fond des mers. Nous crions vers toi, sanctifie nos cœurs, nos lèvres, que nous puissions parler comme oracle de Dieu et te servir dans notre faiblesse par la force que tu fournis. C'est la grâce que nous te demandons pour cette heure. On te prie aussi de captiver nos pensées, de nous ôter toute distraction et de nous faire entendre ta voix douce et subtile qui veut nous convaincre et nous bénir. En vie. Amen. Et bien très rapidement, mes amis, nous arrivons vers la fin de ce premier camp, car quand le mercredi soir est là, nous savons que tout se terminera rapidement. Alors, prêtons encore une fois attention aux enseignements du Dieu vivant en ce mercredi soir 17 juillet et cherchons comment nous pouvons découvrir et contempler le visage de Jésus dans ce livre des Proverbes. C'est donc le chapitre 9 que nous avons à étudier et nous le lisons immédiatement. Chapitre 9 du livre des Proverbes, qui est la fin de la première partie de ce livre, qui forme au fond toute l'introduction aux Proverbes et qui vont venir à partir du chapitre 10. La sagesse a bâti sa maison. Et je voudrais que vous vous souveniez de ces règles et qu'immédiatement dans vos pensées, vous essayiez de rejoindre le Seigneur Jésus dans l'Évangile. Est-ce qu'il a parlé de bâtir une maison, lui? La sagesse a bâti sa maison. Et il a taillé ses 7 colonnes. Posez-vous tout de suite la question, qu'est-ce que peut bien signifier ces 7 colonnes? Bien sûr, on sait que dans l'architecture de l'Orient, un palais était toujours soutenu par 7 colonnes. Mais pourquoi 7? Elle a égorgé ses victimes, ou elle a tué ses bêtes, selon une autre traduction, où elle a préparé ses viandes. Elle a mêlé son vin, ou mixionné son vin, comme on le fait habituellement en Orient. On ajoute presque toujours dans le vin que l'on nous sert à table, on y ajoute des aromates, de la myrrhe ou du nard. Elle a dressé sa table. Donc, est-ce qu'une idée dresse une table? Il n'y a qu'une personne qui dresse une table. Donc, il est bien question que la sagesse est une personne. Elle a envoyé ses servantes, les servantes de la sagesse. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Puisqu'elle nous entrons justement dans une petite énigme, dans une parabole, alors il nous faut essayer de comprendre ce que cette parabole recouvre, quel est son sens. Elle a envoyé ses servantes et elle crie par qui? Par ses servantes. Que celui qui est stupide ou qui est simple, c'est le même sens. Entre ici. C'est donc une invitation. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain. C'est le pain de qui? De la sagesse. Hein? Essayez de montrer là. Moi, je trouve que c'est passionnant. Vous aimez faire les mots croisés? Eh bien, essayez de comprendre et de pénétrer par le Saint-Esprit dans ce sens. De quel pain s'agit-il? Venez manger de mon pain, et ça vous fait penser à quoi cela? Et buvez du vin que j'ai mêlé, pain et vin. Ça peut vous donner déjà une idée de ce que cela pourrait représenter. Et aller plus loin. Quittez. Ah, si vous voulez entrer, si vous voulez vous asseoir à cette table, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Hein. Vous êtes invité, mais il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Quittez la stupidité et vous vivrez. Vous vivrez de la vraie vie, d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et vous vivrez. Est-ce que nous vivons? Et puis, marcher dans la voie de l'intelligence. Quand on a été invité à sa table, est-ce qu'on marche après dans nos propres chemins? Dans Ésaïe 53, il est parlé de gens qui suivaient leur propre chemin. Mais maintenant, que nous avons été les hôtes de la sagesse, est-ce que nous continuerons à marcher dans notre propre chemin? Marcher dans la voie de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que la voix de l'intelligence? L'intelligence, c'est se retirer du mal. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Donc, il est question d'une séparation. Quand on est les invités du Seigneur, de la sagesse, il y a des choses dont on est séparé. Ces choses dont j'ai dû vous parler, hélas, trois fois hélas, hier soir, eh bien, de ces choses-là, nous en sommes séparés. Mais il faut prendre conscience que ces choses-là sont des réalités et qu'elles sont mauvaises. Et j'espère qu'il vous restera l'horreur de ces choses. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Ça vous fait penser à aucune parole de Jésus? Vous voulez la lumière là-dessus? Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Avez-vous eu de la peine à comprendre ce texte? Puis, ne reprend pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Là encore, ça ne vous fait pas penser à une parole de Jésus? Dans le sermon sur la montagne, justement. Qu'il ne faut peut-être pas insister toujours auprès de certaines personnes parce que, qu'est-ce que nous faisons? Nous jetons nos perles devant les pourceaux. C'est ça? C'est la même pensée. C'est extraordinaire ce lien entre justement les proverbes. Et vous voyez comme Jésus, qui était la sagesse incarnée, parlait au fond de cette manière-là. Employer justement ce genre littéraire pour s'exprimer et pour parler au peuple. Mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Est-ce que ça ne vous rappelle pas des paroles évangéliques qui nous étonnent ou qui nous étonnaient de la part de Jésus? C'est à celui qui a déjà qu'on va encore donner. Vous êtes en plein Nouveau Testament dans ces passages. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruit le juste et qu'est-ce qu'il arrivera? Il augmentera son savoir. Parce que le juste, justement, il désire être instruit. Il désire grandir. Il sait qu'il n'a pas fini sa croissance. Nous devons croître jusqu'à lui. Voilà qu'on est de nouveau dans une épître de Paul. Le connaître, lui, croître jusqu'à lui, jusqu'à ce que nous arrivions à la pleine stature du Christ. Instruit le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, qu'est-ce que c'est, votre science? Est-ce que c'est la science du monde ou est-ce que c'est la science des saints? Vous voyez où la science du monde mène notre pauvre monde? Avec toute sa science, on n'est pas capable d'établir la paix sur la terre, d'apporter la justice entre les peuples, de nourrir ces millions d'êtres affamés, de soigner tous ces malades. Mais avec la science du monde, on est capable de préparer des moyens de destruction effroyables pour qu'il y ait encore davantage de sang versé, davantage de larmes, de veuves, de cris, de peine. Mais la science des saints, c'est l'intelligence. Et souvenez-vous que l'intelligence est se retirer du mal. C'est par moi, c'est toujours la sagesse qui parle, que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Ça, c'est la règle générale. Il se peut qu'il y ait des exceptions. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Qu'est-ce qui en aura le bénéfice? Toi. J'ai pas d'intérêt, moi. Mais si toi tu es sage, pour toi. Maintenant, si tu es menteur, si tu te moques de ces choses, si tu hausses les épaules, eh bien, tu emporteras la peine. Tu emporteras la peine, mais ce n'est pas Dieu qui voulait cela. Tu veux faire ta volonté, tu veux marcher dans tes voies, eh bien, tu seras rassasié du fruit de tes voies. Voilà la première partie. C'est donc l'appel de la sagesse. Maintenant, vous avez un autre tableau, parce qu'il y a deux tableaux dans le chapitre 1. Un tableau qui vous présente la sagesse et son appel. Puis maintenant, un autre tableau qui vous présente la folie. La folie est une femme. Vous voyez qu'elles ne sont pas ignorées, les femmes, dans l'Écriture. La folie est une femme bruyante, stupide, et ne sachant rien. Elle s'assied, elle, tandis que la sagesse, elle est debout. La folie, elle s'assied, elle prend ses ailes, à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville. Elle se prend pour une reine. Pour crier aux passants, elle aussi elle crie, aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Seigneur, bénis ta parole, fais-nous la comprendre, nous t'en supplions, et imprègne nos pensées de ces vérités et qu'elles ne nous quittent plus pour l'amour de ton nom. Amen. Alors, mes amis, nous venons de lire ce texte et je voudrais que vous compreniez que ça ne suffit pas de l'avoir lu une fois. Si vous voulez recevoir dans votre vie particulière, quand vous serez chez vous à la maison, vraiment un enseignement de la parole, eh bien, lisez une première fois dans un esprit de prière, arrivez peut-être à la fin. Priez encore, dites au Seigneur, mais il y a des choses que je n'ai pas très bien compris. Donne-moi de relire une seconde fois et éclaire-moi sur ce texte. Alors, vous voyez, vous avez comme un entretien avec le Seigneur. Vous lisez, vous entendez sa parole, puis vous parlez, vous lui parlez, vous lui dites ce que vous ne comprenez pas, vos difficultés. Puis peut-être que vous devrez relire une troisième fois, une quatrième fois, et c'est ainsi que tout va s'éclairer parce que le Seigneur ouvrira vos yeux pour que vous puissiez voir ces merveilles qui se trouvent cachées dans sa loi. Et pendant que vous êtes occupé ainsi bien, je trouve que c'est tellement vrai ce que dit Saint Paul, c'est comme un lavage, un bain d'eau. La parole est comme une eau qui nous lave dans nos pensées, qui nous purifie et qui nous sanctifie, et nous avons besoin de cela, comme notre corps aussi a besoin d'hygiène, et bien notre âme aussi a besoin d'être purifiée, et ce qui purifie, c'est la parole de Dieu, la lecture de la parole. Ne croyez pas qu'on vous met sous une loi, mais si vous voulez vraiment être purifié dans vos pensées, nourrissez-vous de la parole. Dans ce chapitre, nous trouvons donc une double invitation qui est adressée à des gens dépourvus de sens. Les deux personnes qui font un appel, là, s'adressent aux mêmes personnes, à des gens donc dépourvus de sens. Alors, il y a la première invitation, qui est l'invitation de la sagesse. Et puis, la seconde, que nous voyons à la fin du chapitre, qui est l'invitation de la folie. Les deux chapitres précédents, si vous vous souvenez de ce qu'ils contenaient, nous avaient présenté deux tableaux opposés. Au chapitre 7, que nous avons vu hier soir, on avait l'image prise sur le vice de quelle femme ? De la femme adultère, qui usait de ses coupables artifices, si je puis dire ainsi, pour séduire le jeune homme insensé et qui passait près de sa maison. Mais ce matin, au chapitre 8, nous avons eu alors une autre image, l'image de la sagesse personnifiée. Et évidemment, entre ces deux images, il y en a une qui vous édifie plus que l'autre. L'image du chapitre 7 n'était pas édifiante, mais l'image que nous donne alors le chapitre 8 est édifiante. L'image de la sagesse personnifiée qui s'adresse à tous et qui adresse une invitation pressante pour que l'on suive ses avis. Alors ici, au chapitre 9, les deux images de la sagesse et de la folie apparaissent encore, mais pour la dernière fois, elles sont étroitement juxtaposées. Ce chapitre 9, voyez-vous, est comme un résumé où ces contrastes entre les deux femmes s'accentuent pour laisser au lecteur une impression vraiment définitive. Nous demandons à Dieu que réellement vous n'oubliez pas les traits de ces deux personnages. Versets 1 à 12, donc, appel de la sagesse. Versets 13 à 18, appel de la folie. Alors, voyons d'un peu plus près l'appel de la sagesse. Et vous remarquez, puisque nous avons commencé notre étude avec les premiers versets du chapitre 1, que au chapitre 1er, au verset 20, on avait comme l'annonce de ce que la sagesse serait. Chapitre 1er, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les classes. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusque à quand, cupide, aimerez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Alors, vous voyez que l'appel de la sagesse, dans ce chapitre premier, il s'adressait à toute catégorie de personnes. Il y avait les stupides ou les simples, il y avait les moqueurs qui étaient aussi invités à quitter leur moquerie. Il y a aussi un salut pour les moqueurs s'ils cessent de se moquer. Ils sont aussi invités. Et puis les insensés, ceux qui nient qu'il y ait un Dieu, eh bien eux aussi, ces fous-là, sont invités à connaître le Seigneur. L'appel, c'est vraiment l'appel de l'évangélisation, c'était verset 23 à tous ces gens-là, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Vous vous souvenez de cela. C'était là comme un avant-goût de ce que nous allions lire plus loin. Maintenant, il y avait au chapitre 8, que nous avons lu ce matin, il y avait un autre appel de la sagesse qui se tenait debout. Verset 1 du chapitre 8, c'est la deuxième fois que la sagesse est vue comme criant. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Et à qui s'adresse-t-elle? Donc, c'est à toute l'humanité aussi, mais plus spécialement, homme, c'est à vous que je crie, Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Puis alors, vous avez les catégories, les saintes. Ou stupides. Apprenez le discernement. Insensés, apprenez l'intelligence. Puis, écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. Mais vous remarquez qu'il manque quelqu'un qui était cité dans le premier chapitre. L'appel avait été donné à qui encore dans le premier chapitre? Les moqueurs. Mais dans le deuxième appel, les moqueurs n'y sont plus. Parce que si vous voulez rester dans votre moquerie, le Seigneur vous y laissera. Vous avez laissé passer le temps. C'est ce qui est arrivé aussi au Pharaon. Dieu parle une fois, deux fois. Mais si vous n'en voulez pas, le Seigneur passe plus loin. Il y a d'autres âmes qu'il faut atteindre. Alors, les moqueurs, ils ne sont plus ici dans le champ de vision, ou en quelque sorte, de la sagesse. Et c'est quelque chose qui est très grave. Dieu vous a parlé une fois, deux fois, et avez-vous pris garde? Là, les moqueurs ne sont plus. Elle crie la sagesse dans le chapitre 8 aux stupides et aux insensés. Oui, ceux qui nient encore l'existence de Dieu, il y a encore peut-être salut pour eux. Mais les moqueurs, c'est des gens qui ont connu une certaine vérité, parce que sans ça, ils ne s'en moqueraient pas. Ils ont une connaissance, mais ils se moquent de cela. Et voyez-vous, je pensais aujourd'hui que nous arrivons dans des temps où on a pu voir jusqu'à présent trois classes de personnes chez les gens baptisés. Il y a les froids, il y a les tièdes, et puis il y a les bouillants. Et le Seigneur dit par son esprit, dans le livre de l'Apocalypse, « Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Je suis complètement convaincu que l'heure va venir où on ne pourra plus être des tièdes. Il va se passer dans ce monde des choses telles que vous serez obligés de prendre position. Parce que maintenant, c'est très facile de vivre en chrétien. Vous n'avez pas la persécution. Mais si tout à coup, soit par un nouveau gouvernement ou par d'autres circonstances qui peuvent encore venir, tout cela est échangé, eh bien, pour se convertir, pour être témoin de Christ, ça coûterait quelque chose. Et je crois que, à ce moment-là, on verrait une chose extraordinaire. Maintenant, toutes les églises sont divisées dans la chrétienté, et c'est bien triste. Et pourtant, dans chaque église, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. Il y en a dans le catholicisme, il y en a dans les églises orthodoxes, il y en a dans le protestantisme, il y en a chez les évangéliques aussi, n'est-ce pas? Mais dans tout ce milieu, il y a aussi des gens qui ont la forme de la piété, même si cette forme paraît très biblique, mais qui en ont renié ce qui en fait la force, ce qui en fait la puissance. Ils ne vivent pas authentiquement leur christianisme. Et le Seigneur les appelle des tièdes, des tièdes. Et il dit, je les vomirai de ma bouche. On a la connaissance, mais on n'a pas l'obéissance. Oh, on n'a pas rejeté tout à fait ces choses. Mais au fond, il ne faut pas exagérer, alors on est tiède. Eh bien, quelle est la pensée de Dieu? Si la parole, vous l'écoutez, il dit, je voudrais que tu fusses ou froid, ou bouillant. Et vous savez, dans le petit livre que j'ai écrit sur Jésus revient tu prêt, je parle d'une expérience que j'ai dû vivre en 1941, alors que j'étais aumônier à Lesseux, dans cette station climatique de Suisse, où nous avions 3000 tuberculeux, 3000 malades. Eh bien, là, le Seigneur m'a parlé, parce que je lisais ce chapitre de l'Apocalypse, chapitre 3, puis tout à coup, j'étais à genoux devant ma chaise, puis j'étais seul, je lisais. Puis le Seigneur me parle. Est-ce que tu es froid pour le Seigneur? Alors, j'écoute. Moi, froid? Oh non, Seigneur, tu sais bien que je ne suis pas froid, parce que Si j'étais froid, ben, je ne serais pas à ton service, je ne serais pas parmi les tuberculeux de Lézun pour leur prêcher l'évangile ou les assister dans leur dernier moment. Seigneur, je ne suis pas froid. Alors le Seigneur dit, très bien. Il sait nous parler. Hein. Alors est-ce que tu es bouillant pour moi? Bouillant? Et qu'est-ce que ça veut dire être bouillant pour le Seigneur? Est-ce que vraiment, je passe en premier dans ta vie, avant ta femme, avant tes enfants, avant tes désirs, est-ce que c'est moi? Est-ce que tu me connais dans toutes tes voies? Alors, vous savez, il a fait passer devant moi quelques portraits d'hommes bouillants dans l'Écriture, et j'ai dû confesser, et tout à coup, alors, oui, je me suis senti concerné. Non, je ne suis pas bouillant, Seigneur. Je ne peux pas dire que je suis bouillant pour toi, parce que ce serait tout différent, ma vie. Il y a encore tant de choses. Non, je ne suis pas bouillant. Et ben, j'ai commencé de me dire, ben, ça t'a prêché peut-être aux autres sur ce texte, mais toi, où en es-tu, hein? Et alors, là, il y a un débat, on n'est pas très heureux, parce que le Seigneur dit, alors si tu n'es ni froid ni bouillant, qu'est-ce qui reste? Alors, tout à coup, tu es atteint, en fait, tiède pour moi, tu t'es tant aimé, tu es tiède. Puis tout à coup, tiède, mais oui, c'est vraiment ça, tiède, ni froid, ni bouillant, tiède. Mais alors, eh bien, je te vomirai de ma bouche. Mais est-ce que je vais perdre mon salut? Et non, il n'est pas question de ça. Mais je veux que tu constates ton état. Alors, mais est-ce qu'il y a un espoir pour un tiède? Eh oui, il faut lire un peu plus loin. Aie donc du zèle et repens-toi. Et tu avais compris que dans notre vie chrétienne, il devait y avoir des moments de repentance où on doit faire le point et se ressaisir devant Dieu, être vrai devant Dieu, sans qu'on ait une grande vision ou un rêve qui nous bouscule, un rêve spirituel, mais que nous devons vraiment savoir nous arrêter et dire, mais à quoi est-ce que j'en suis dans ma vie chrétienne? Parce qu'on s'habitue tellement, on suit des réunions, on fait partie d'une communauté qui est devenue au fond notre club, on devient des gens indispensables dans ce milieu-là, et puis voilà, on a une petite vie, on commence à être honoré, tout ce que vous voulez. Et puis, on prend ses habitudes. Mais au fond, est-ce que c'est ça la vraie vie? Alors on se remet en question. Parce que voyez-vous, on doit se remettre en question. Parce que sans ça, c'est le Seigneur qui va nous remettre en question. Mais comment? Eh bien, par une épreuve comme celle de Job, je ne vous la souhaite pas. Parce que Job a été remis en question, pourtant il était pieux, il était parfait, droit, il craignait Dieu, il se retirait du mal. Mais quand il a passé par cette épreuve, il a appris à se connaître. Et lui qui était quand même assez satisfait de ce qu'il était, un peu moins jeune finalement, eh bien, il s'écrie quand il a entendu le Seigneur, « J'ai horreur de moi, je me repens dans la poussière et dans la cendre. » Et vous pouvez prendre tous les hommes de Dieu, les plus saints, les plus fidèles, quand ils ont été dans la présence de Dieu, même après des années et des années de vie avec le Seigneur et de fidélité, ils se sont effondrés. Et cela, je le répéterai toujours, que ce soit un Moïse, que ce soit un Josué, ce soit celui que nous venons de nommer Job au temps des patriarches, et que ce soit un Ésaïe, le grand prophète, quand il a vu le Seigneur, il a dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Puis le Seigneur est intervenu, mais il a confessé son péché, tout prophète qu'il était, il s'est senti réellement interpellé. Et si vous allez plus loin, que vous voyez Daniel, le pieux Daniel, le fidèle Daniel, ses ennemis cherchaient un sujet d'accusation contre lui et n'en trouvaient pas. Sinon, peut-être qu'on pourrait l'accuser au sujet de la loi de son Dieu. C'est un homme qui prie. Alors ils ont fomenté, au fond, toute une intrigue pour faire tomber Daniel dans une situation périlleuse, dangereuse, mortelle. Eh bien, ce Daniel, et qui était si fidèle, il est dit dans les chapitres qui suivent que, avant qu'il ait les grandes révélations, quand il a eu la vision du Seigneur, il dit, j'ai changé de couleur. J'ai changé de couleur. Il n'a pas changé de couleur avec les lions. Là, il était vraiment soutenu, secouru. Mais devant le Seigneur, il a changé de couleur. Il a dit, mon teint s'est changé en corruption, puis il est tombé sans force. Et il a fallu le Seigneur pour le relever et lui dire, tu es un homme bien aimé. C'est pas parce que pendant ce camp, vous aurez eu ce moment que vous devez penser que le Seigneur ne vous aime pas. Si le doigt de Dieu a été mis sur une plaie de votre cœur, eh bien, ne pensez pas que c'est parce que le Seigneur ne vous aime pas. C'est justement parce qu'il est ambitieux pour vous et il a voulu vous faire sentir quelque chose parce qu'il veut vous donner davantage. Il veut vous donner plus. Et Daniel a été gratifié de visions plus excellentes encore, mais il a reconnu qu'il n'était rien. Et il a eu une conviction de péché telle qu'il a pu faire une prière, une confession, non seulement pour ses propres péchés, ceux de ses parents, mais aussi pour le peuple tout entier. Et sa prière a été entendue et il y a eu ce merveilleux réveil qu'on connaît sous Esdras et qui est suivi par Néhémie, Zorobabel, Josué ont été suscités. Mais qui était derrière tout ça? Un homme qui s'était vu dans la présence de Dieu, c'était Daniel, qui lisait les Écritures et qui, en lisant les Écritures, a compris que le temps était proche. Il a su dans quel temps il était. Il a vu ce que Jérémie avait écrit, qu'après 70 ans, Dieu pourrait visiter son peuple et le ramener de la captivité. Et il a compris par les livres, par l'Écriture qu'il lisait, il a compris que c'est le moment et il est allé à Dieu avec sa parole. Voilà ce que tu as dit au Dieu, fais luire ta face sur ton sanctuaire des olives. Et il était exaucé. Et tout un résidu est remonté de captivité. Mais ce qui a provoqué sa prière, c'est une nouvelle conviction de péché. Et voyez-vous, si au lieu de nous être habitués au péché, parce que tout est toléré, et même on glorifie le mal, on se glorifie de ce qui devrait être notre honte, dit l'apôtre Paul. Si, au lieu de passer l'éponge sur le péché, de dire, mais le péché, ça n'existe pas, si on était saisi tout à coup, mais c'est horrible ce que nous sommes en train de faire, c'est horrible les habitudes que nous prenons. Puis alors, ces habitudes que nous prenons, elles déteignent sur toute notre manière d'être, sur toute notre manière d'agir. Je ne dis pas que nous tombons dans des péchés grossiers, mais au fond, tout est tellement relâché qu'on arrive à être relâché même à table. On n'a plus de manière. On n'a plus de manière. On ne pense plus aux autres, on pense qu'à soi. On risque même de ne pas passer les plats aux autres. On est vraiment centré sur son nombril, sur son estomac, sur notre ventre. Mais je dis ça aussi pour moi. Alors, nous devons nous ressaisir et nous dire, mais est-ce que j'ai des yeux pour les autres? Est-ce que je pense à mon prochain? Nos propos de table, que sont-ils? Est-ce qu'ils sont édifiants aussi? Nous nous laissons aller si souvent. Mais je n'ai rien contre le rire. Nous pouvons rire, mais d'une façon qui soit saine. Et bannir de nos pensées tout ce qui peut être équivoque et qui, finalement, nous souille. Alors que le Seigneur agisse dans nos cœurs et que nous puissions vraiment dire, mais Seigneur, oui, si c'est vrai que de toutes mes paroles, je devrais répondre devant Dieu, eh bien, purifie mes lèvres. Je le demande pour moi-même. parce que de toute façon, tout est enregistré par le Seigneur. Il nous disait, si tu veux être fort dans la vie, reste pur, et on nous enseignait ces choses comme enfants déjà. Et on nous montrait comment nous pouvions être libérés de ce péché secret qui ruine tant de jeunes vies. Bien oui, mais maintenant on vous dit, mais non, il faut leur enseigner qu'ils ont tout en eux pour avoir toute espèce de jouissance. Voilà. Alors, nous sommes dans un monde de péché, et il y a cette grande vague qui va venir, et ceux qui voudront dire autre chose, eh bien, ils seront mis de côté, peut-être jetés en prison, et on leur fera un procès, et peut-être ce sera le martyr, c'est dans le programme. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mais alors, si vraiment le Seigneur n'est pas devenu votre sauveur, celui qui compte en premier, eh bien, nous qui avons tellement peur d'un petit bobo, tellement peur de souffrir un peu, est-ce que vous envisagez d'être torturé? On vous dirait, oh ben non, alors, pour Jésus, si Jésus n'est qu'une idée, vous renierez Jésus à ce moment-là. Et vous vous en irez avec le monde pour avoir la vie sauve. Mais celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Alors tout à coup, on saura ce que ça veut dire. Hein. Il la perdra. Celui qui la perdra, il la trouvera. Il la trouvera. Voyez-vous, c'est cela qui compte. Alors, nous voyons ce moment arriver où il n'y aura plus de tiède, ou bien on sera devenu des froids, on sera allé avec les froids, ou bien alors on sera devenu bouillant pour le Seigneur et prêt à supporter la souffrance. Ne vous moquez pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors, si on a été touché et que notre conscience a parlé, nous nous humilions, nous confessons la chose et le Seigneur va nous bénir, nous donner sa bénédiction, la seule qui enrichit comme nous le verrons demain et à laquelle Dieu n'ajoute aucun chagrin. Mais il faut passer par ce mauvais moment. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi les moqueurs, à un moment donné, seront laissés. Ils seront laissés. Alors, maintenant, la troisième mention de la sagesse qui crie, c'est dans ce chapitre 9. Mais nous voyons qu'elle a bâti sa maison. Il y a donc un lieu où la sagesse habite. Et nous avons vu qui est la sagesse. C'est Jésus, c'est une personne. Et si vous lisez dans Matthieu 16, le Seigneur à Césarée de Philippe pose la question à ses disciples, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme. Et puis, en finale, Pierre confesse sa foi, qui est au fond la base de la foi chrétienne, la confession de Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors, vous avez cela au chapitre 16 de Matthieu, verset 16, la confession de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est question que le Seigneur voulait bâtir son église. Et nous savons que cette maison a été fondée sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, mais que c'est l'apôtre Pierre qui a été employé le premier pour faire entrer dans cette maison les Juifs qui se sont convertis le jour de la Pentecôte à Jérusalem, les Samaritains qui plus tard ont été amenés au Seigneur et ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ensuite, c'est aussi l'apôtre Pierre qui était l'instrument pour ouvrir la porte du royaume de Dieu aux païens à Césarée maritime, les païens réunis chez Corneille. Donc la maison existe. L'église est devenue une réalité. Elle est la maison de Dieu. Et cette maison, au fond, représente le glorieux salut préparé dès avant les siècles par la sagesse divine, comme il l'est dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 7e. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons, dit l'apôtre Paul, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Oui, c'est une sagesse que l'apôtre Paul prêchait. Et qu'est-ce qu'il prêchait comme sagesse? Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. C'est ça la sagesse. Voilà la sagesse que Paul prêchait. Donc, vous voyez que dans les Proverbes, nous avons déjà cette annonce, sous cette parole. Et cette maison, eh bien, nous la trouvons dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem qui sera alors achevée. Elle a été commencée à la Pentecôte et elle sera achevée dans la nouvelle Jérusalem. Mais elle était préconnue dès avant la fondation du monde. C'était un mystère, mais qui était révélé. Alors, dès maintenant, cette maison existe. Et alors, il est dit que elle a taillé ses 7 colonnes. Je vous ai dit pourquoi 7, parce que, mais non, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai dit que en Orient, n'est-ce pas, une maison de maître ou un palais reposait toujours sur 7 colonnes. Mais pourquoi 7? C'est un chiffre divin à cause de la création du monde qui a été fait en 7 jours. Et c'est un chiffre de plénitude. Alors vous pouvez vous demander, mais alors quelles sont les 7 colonnes de la sagesse? Où iriez-vous les chercher? Ben, les 7 colonnes de la sagesse, peut-être qu'il est parlé de la sagesse dans Jacques, puisqu'on nous a signalé que si quelqu'un manquait de sagesse, il pouvait demander à Dieu, comme le disait Jacques, a-t-on entendu ce matin. Alors Jacques, justement, nous parle de la sagesse et d'une fausse sagesse, qui est charnelle, diabolique. Mais il nous parle de la sagesse d'en haut, verset 17 du chapitre 3 de Jacques. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Une des colonnes que la sagesse a taillée, c'est la pureté. Hein. La pureté, voilà une des 7 colonnes de la sagesse. La pureté, pour être fort, soit pure. Ensuite, elle est paisible, pacifique. Une des secondes colonnes de la sagesse, de la maison de la sagesse, c'est quoi? La paix. Nous sommes appelés à vivre en paix les uns avec les autres. Et puis, vous méditerez vous-même sur les autres colonnes, modérée, la modération, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. La 7e colonne, c'est vraiment la transparence. Qu'est-ce qui est le contraire de l'hypocrisie? C'est la transparence. Hein? Vous êtes vrai, c'est la vérité, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas un masque. Alors vous pouvez méditer là-dessus sur les colonnes de la sagesse. Nous pourrions aussi voir dans ces 7 colonnes qui soutiennent aussi l'Église, ce que nous trouvons dans le chapitre 4 des Éphésiens. Il y a là 7 choses qui sont très claires et qui manifestent l'unité chrétienne. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a une seule espérance, ça fait la 3e. Et puis, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême et il y a un seul Dieu et Père de tous. Voilà cette colonne aussi qui soutiennent l'unité chrétienne, l'unité de l'Église. Et on pourrait parler encore de bien d'autres choses, mais je vous les signale seulement en passant. Alors, dès maintenant, nous savons que cette maison existe. Et l'action de la sagesse divine maintenant, eh bien, c'est de nous inviter à entrer dans cette maison. Et dans cette maison, nous est préparé quoi? Un festin, un repas que la sagesse a préparé. Elle a dressé sa table. Alors, ça vous fait penser à quelle histoire, ça, de l'Évangile? Je m'en vais seulement vous indiquer les passages, parce que je ne peux pas les lire, et nous n'avons pas le temps. Luc, chapitre 14. L'invitation au festin. Venez, car déjà, tout est prêt. Relisez ce chapitre 9 à la lumière du chapitre 14 de Luc, et vous comprendrez bien des choses. Le grand souper, et vous avez aussi cela en Matthieu, chapitre 22e, et comment chacun s'excuse, trouve une excuse pour ne pas venir au souper de Dieu. Comment aussi, nous voyons dans le chapitre 9, que tous ne répondent pas à l'invitation de la sagesse. Le Christ a bâti son Église, mais il est retourné au ciel. Et alors, qu'est-ce qu'il a envoyé pour faire les invitations, pour annoncer l'Évangile? Ses servantes, ce sont ses disciples. Il a envoyé ses servantes, la sagesse a envoyé ses servantes. Mais les servantes de l'Église, ce sont ceux qui servent, qui annoncent l'Évangile. Les disciples ont eu cette mission d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, sur le sommet des hauteurs de la ville. Et puis, cet Évangile s'adresse à qui? À ces gens simples, stupides même, parce que le Seigneur voudrait que ces âmes vivent. Et ce qu'il a préparé, eh bien, c'est réellement le pain de la vie. Et ce vin, c'est le symbole de la vraie joie. La nourriture spirituelle, la joie spirituelle, nous les trouvons à la table du Seigneur. Alors là, vous avez toute une image de ce que peut être la table du Seigneur, où sont invités tous les hommes. Quels qu'ils soient, s'ils veulent bien renoncer à leur stupidité, c'est-à-dire renoncer à quoi? À eux-mêmes. Alors, si je renonce à moi, je peux devenir son disciple et je pourrai vivre et jouir de cette communion à la table du Seigneur. Vous vivrez, mais pas n'importe quelle vie, vous aurez une vraie vie spirituelle. Là, on pourrait méditer longuement. Et puis, quand on a accepté cette invitation, qu'est-ce qui doit suivre? Qu'est-ce qui doit suivre notre confession au Seigneur? La marche. La marche. C'est tellement clair, mais pas tout se place. Marcher maintenant, verset 6. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme lui a marché. Il y a des traces. Marcher dans la voie de l'intelligence. C'est-à-dire dans la séparation du mal. Et vous savez, moi je connais des catholiques qui marchent vraiment dans la séparation de ce qui est mal. Parce qu'ils ont encore la crainte du Seigneur et ils ont aussi l'amour du Seigneur. Alors ne me dites pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Ne me dites pas que ne parlez plus de ces gens-là qui ne sont pas de votre Église en disant qu'ils sont des païens. C'est une abomination de dire une chose comme ça. Parce que le Seigneur connaît les siens. Vous traitez de païens les siens, de ces chers enfants qu'il connaît. Bien sûr, ils n'ont peut-être pas certaines lumières que vous avez. Mais vous, est-ce que vous vivez selon vos lumières? C'est cela qu'il faut comprendre. Alors vous aurez un cœur tout à fait différent. Vous ne serez pas des étroits, mais vous aurez un cœur large tout en marchant dans un sentier étroit. Vous aurez un cœur ouvert aux autres, mais vous marcherez dans les traces du Christ. Et voyez-vous, s'il y avait la persécution, ce que je disais tout à l'heure, et qu'il fallait prendre position pour Christ, bien qu'est-ce qu'on verrait? Tous ceux qui sont vraiment en relation personnelle avec le Dieu vivant, quelle est votre relation personnelle avec le Dieu vivant, eh bien, ils seraient mis dans un parc pour être fusillés. Et qu'est-ce qu'on verrait là? la vraie unité. On l'a vu pendant la guerre. Il n'était plus question d'être catholique, d'être protestant, d'être ceci ou d'être cela. Ceux qui étaient au Seigneur dans les camps de concentration se retrouvaient unis. Ils n'avaient pas de pasteur, ils n'avaient pas de prêtre, mais ils étaient ensemble et ils faisaient des études bibliques ensemble. Et qu'est-ce qu'il avait fallu? Il avait fallu l'épreuve pour les mettre ensemble. Parce que qu'est-ce qui les tenait ensemble? Une personne, Jésus. Pas une doctrine. Il n'y avait pas les luthériens d'un côté, les calvinistes d'un autre, etc. Tout cela, c'était fini. Mais ils étaient un en Christ. Mais on verrait aussi, de l'autre côté, ceux qui se rejoindraient, on les verrait, hélas, rejeter le Seigneur pour avoir la vie sauve. Mais est-ce que notre amour pour le Seigneur ne devrait pas nous unir déjà? Quand on rencontre une âme qui est vraiment Seigneur, elle est d'une autre confession, mais elle aime le Seigneur. Ben, elle est ma sœur, elle est mon frère. Elle aime le Seigneur. Et on peut parler du Seigneur. Tandis que dans notre propre communauté, quelquefois, on ne peut pas parler du Seigneur. Parce que pour parler du Seigneur ensemble, il faut avoir le même accent. C'est un peu difficile. Il faut pouvoir dire chibolette de la même manière. C'est ça. On peut parler de toute autre chose, mais pas du Seigneur. Parce qu'immédiatement, il y aurait conflit. Tandis que avec des personnes d'un autre milieu qui aiment le Seigneur, on se sent vraiment à l'aise. Et on est centré immédiatement sur le Seigneur. Ça nous montre que Dieu voit les choses tout autrement que nous, nous les comprenons. Revenez au centre, mes amis. Alors, moi je vois depuis le verset 6 comme une prophétie nous montrant ce qu'était la vie du Seigneur, ce que serait la vie du Seigneur. Sa doctrine, c'est renoncer à vous-même, quitter les stupidités, et vous vivrez. C'est le message de Jésus dans l'Évangile. Marchez dans la voie de l'intelligence. Puis, on voit ce qui a été sa vie. Il a repris des moqueurs. Mais qu'est-ce qui s'est attiré? Du dédain. On n'a eu pour lui aucune estime. On l'a méprisé. Il est méprisé et maltraité. Pourquoi? Parce qu'il reprenait le moqueur. Et puis, il est dit, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Il a subi tous les outrages. Pourquoi? Parce qu'il voulait corriger le méchant. Pas lui faire du mal, mais qu'il change sa vie. Il voulait sauver le méchant. Et il a reçu tous les outrages. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, ensuite, verset 8, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Ben, c'est ce qu'il nous enseigne dans ce texte que j'ai cité, Matthieu, chapitre 7, où il est dit qu'il ne faut pas jeter ses perles devant les pourceaux. Ça ne sert à rien. Il y a un moment donné où le moqueur, on le laisse. Mais reprends le sage et il t'aimera. Il y a des gens auxquels vous pouvez parler et ils recevront votre parole. Ils vous aimeront parce qu'ils avaient besoin d'une parole et qui les encourage, même si on a dû les reprendre. Ils voient que c'est par amour qu'on les a repris. Maintenant, verset 9, donne au sage et il deviendra plus sage. J'ai déjà cité un passage de Matthieu 13 qui nous instruit ainsi. Instruit le juste et il augmentera son savoir. Et ce commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Il n'y a pas de commentaire à faire à cela parce qu'on comprend bien. Mais se multiplieront juste dans la vie éternelle. Et que les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras la peine. Alors maintenant, vous avez l'autre appel qui est celui de la femme folle. Ça, c'est la femme folle, là. Elle représente la sagesse humaine. La sagesse du monde.
Parce que vous avez le Seigneur qui vous appelle dans ce monde. Mais il y a aussi la sagesse du monde. Le monde aussi a une ambition. Le monde voudrait posséder votre cœur. Et il fait tout pour vous attirer. Et il a ses moyens à lui. Mais alors, les moyens du monde pour vous attirer, c'est bruyant. Vous savez où sont les lieux bruyants ? Aujourd'hui, est-ce qu'on ose prononcer un mot ? 10 côtes. Hein ? Ben là, c'est pas silencieux. Puis on aime ça. Hein ? Et on y passera nos nuits. Alors, bon, ben allez-y. Eh bien, vous y trouverez la femme folle et bruyante, stupide, et ne sachant rien. Oh, pourtant, ils savent tout. Tous ces jeunes, ça croit tout savoir. Et nous sommes des vieux qui sont retardés. Elle s'assied à l'entrée de sa maison. Voyez le contraste. Sur un siège, elle se croit la reine. Satan est un usurpateur. Et puis alors, cette voix du monde, cette sagesse humaine, elle attire tous ces jeunes. Parfois, mais en flattant les convoitises qui se trouvent dans notre cœur. Alors, le monde m'offre des choses qui correspondent à ma nature. Alors, ça nous plaît. Puis, le monde a l'air tout à fait sincère quand il vous propose certaines choses. Puis, il vous dit, mais il n'y a pas de mal à ça. Mais regardez, c'est très beau. Et c'est très bon. Je vous dis pas que c'est pas bon. Je vous dis pas que c'est pas bon. Mais est-ce que c'est du Seigneur? Est-ce que ça vous rapproche de lui? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est ça l'adultère dont nous voulons vraiment parler, hein. Mais nous avons dû voir les choses d'une façon littérale pour pouvoir comprendre maintenant d'une façon spirituelle. Parce qu'il fallait que nous ayons des faits. Parce que dans la vie pratique, eh bien, nous sommes avec des faits. Mais voilà, maintenant, il y a une prostitution spirituelle. Oh, mais moi, je ne vais pas avec les prostituées, mais je me prostitue. Dans beaucoup de domaines, peut-être. Nous nous prostituons, nous sommes des prostituées. Parce que nous pactisons avec toutes sortes de choses que nous devrions laisser abandonner. Et j'en ai cité quelques-unes. Parce que on ne voit plus que c'est mal. On n'a plus une réaction saine en présence du mal. On admet. On ne voit pas. Il n'y a pas plus de mal à faire ceci qu'à faire cela. C'est ce qu'on entend sans cesse. Alors, apparemment, aussi bien la sagesse que la folie, la sagesse du monde, ça paraît très sage, humainement. Mais il est dit que c'est une folie aux yeux de Dieu. Alors, Seigneur, donne-moi de voir les choses comme toi tu les vois. Moi, je trouve que c'est très bien, mais Dieu me dit que c'est très mal. Alors, qui est-ce qui a raison? À qui voulez-vous donner raison? Si vous ne donnez pas raison à Dieu, vous donnez raison à qui? À vous. Donc vous êtes toujours centré sur vous-même, vous ne vous êtes pas quitté vous-même. Que celui qui est stupide entre ici et dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces, le pain du mystère est agréable. Oui, voilà. C'est le travail dans la nuit. Dans les ténèbres. Verset 18. Et il ne sait pas. Si tu écoutes la voix du monde, tu ne te rends pas compte où tu vas. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Tu es déjà un mort. Est-ce que vous êtes des vivants ou est-ce que vous êtes des morts? Et nous, les chrétiens, réveille-toi, toi. Dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que bien souvent, on est tous couchés. Hein? Alors, comment savoir si vous avez dans un champ des gens couchés? Comment savoir ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants.
Il faut aide pour ça. Il est où?
Ah, vous êtes là. Réveille-toi, toi, qui dors. Qu'est-ce qu'il aura? Un coup de clairon. Eh bien, ceux qui ont la vie, ils se lèvent. Les autres, ils restent, sont morts. Réveille-toi, toi, qui dors. Alors, qu'est-ce qui fait? Quel est le coup de clairon? C'est la parole. C'est la parole. La parole qui vous réveille, qui vous saisit, hein, parce que vous avez la vie. Vous étiez endormis. Moi, ça m'arrive aussi. Et c'est pourquoi je me suis mis tout le temps dedans hier. Parce que je veux que vous sachiez que moi, je suis un homme comme un autre. Hein, et que nous avons les mêmes luttes, les mêmes tentations, les mêmes dangers. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et qu'on peut avoir les mêmes pensées. Et qu'on doit demander au Seigneur de nous purifier tout cela. Pour que nous puissions avancer. Mais bien souvent, nous sommes endormis comme les autres. Nous sommes endormis. L'année passée, on m'avait demandé de vous apprendre un cantique. Je ne sais pas si certains s'en sont souvenus. Comme les vierges de la parabole. Seigneur Jésus, nous sommes endormis. Beaucoup des tiens, oubliant ta parole, sont devenus du monde les amis. Mais tous repris dans leur conscience, hein, là tout à coup, se réveillent. On confesse nos péchés au Seigneur. Et puis on revient à lui. Alors la bénédiction nous est vraiment donnée. Mais il faut passer par ce mauvais moment. Ceux qui nous entourent et qui n'ont pas le Seigneur, il est dit, c'est pas moi qui le dis, ils sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, dans lesquels vous marchiez. Vous avez vu le cortège de morts qui marche? Est-ce que vous seriez dans ce cortège? Des morts en marche. C'est impressionnant, hein? Des morts qui marchent. Dans les rues, vous les avez vus? Ces morts qui marchent. Ces morts qui marchent. La nuit, le jour, ils marchent toujours. Par quelle puissance? Par l'esprit de Satan qui les anime. Mais ils sont morts spirituellement. Et alors, quand on accepte le Seigneur, eh bien, on cesse d'être mort de cette manière et on a la vie qu'il donne. Le Saint-Esprit devient vraiment notre vie. Mais dans le monde, les morts, ils sont déjà morts spirituellement. Il ne sait pas que là sont les morts. Et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Je suis mort et je m'en vais vers la mort. Ce sera là mon séjour. Ou bien, j'entends la parole, j'accepte cette parole, et par la grâce de Dieu, je reçois la vie. Et je deviens un vivant pour glorifier le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Eh bien, que le Seigneur vous parle et qu'il me parle encore à moi. J'en ai toujours besoin. Vous verrez vous-même le titre que vous pouvez donner à ce chapitre. Et demain, nous commencerons le chapitre 10. Alors vous verrez, c'est tout autre chose. C'est vraiment des courtes sentences, mais toutes détachées. Et nous espérons quand même arriver à couvrir tout le livre si nous consacrons aussi dimanche prochain, le matin, au culte, à la lecture et à la méditation d'un de ces chapitres. Nous prions. Ô Seigneur Jésus, nous entendons ta voix la nuit où tu fus livré, dans ton dernier entretien avec les disciples. Tu leur disais, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde prétend qu'il peut nous donner quelque chose, nous donner le bonheur, et nous savons bien que c'est mensonge. Où pouvons-nous trouver le bonheur, sinon en revenant à toi, en te demandant, Seigneur, révèle-toi à nos âmes, Oui, révèle ton livre à notre foi. Rends-le vivant, ô Dieu, pour moi. Que nous puissions nous y voir en notre laideur et te voir dans ta beauté, notre Sauveur, comme le dit le cantique. C'est notre prière ce soir. Nous te remettons aussi ma chère Eva qui rentre ce soir à Montréal. Garde-la, bénis-la, protège-la et dans ta bonté, aide-la dans les soins qu'elle aura à donner demain à l'hôpital et donne-nous la joie de la revoir venir sans trop de fatigue mais secourue par ton amour. Nous nous recommandons à toi, nous te recommandons tous ceux que nous représentons ici dans nos familles. Tu les connais, tu sais tous deux en ce moment, bénis-les. Nous savons que tu nous as entendus et nous savons que tu nous as répondu. En Jésus. Amen.